Bonsoir. Clôture jeudi dernier de la convention de la plateforme sociopolitique de l'opposition dénommée Sauvons le Congo. Une cinquantaine de résolutions ont été adoptées, notamment la convocation d'ici le mois de mai d'un dialogue inclusif et la requalification du bureau de la CENI. Quelle analyse faire des résolutions issues de cette convention de l'opposition? C'est notre débat de ce soir. Comme invité, nous recevons Martin Fayoulou, député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement. Il est co-coordonnateur de la plateforme Sauvons la RDC. Honorable Fayoulou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Franklin Tchamala, communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Tchamala, bonsoir.
Bonsoir, mon frère.
Joseph Kongolo, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La plateforme sociopolitique de l'opposition Sauvons la RDC opte pour la refondation d'un état de droit réellement démocratique. Elle recommande par ailleurs au chef de l'État et à sa famille politique de ne pas modifier un seul iota de la Constitution. Ces points sont contenus dans la feuille de route proposée par cette opposition dite constructive au terme de 4 jours de sa convention d'unité de l'opposition et de diagnostic de la situation politique du pays ici à Kinshasa. Au total, Sauvons la RDC adopte une cinquantaine de résolutions. Jeff Ngoy.
Pour consolider la démocratie dans notre pays, la plateforme Sauvons la RDC pense qu'il sied de l'asseoir sur les fondations solides. Il est impérieux, croit-elle, que la CENI soit réellement indépendante et neutre, d'où sa feuille de route suggère un dialogue inclusif en mai de cette année. La révision de la loi électorale durant la session parlementaire en cours, en même temps la requalification du bureau de la CENI, l'élaboration de la cartographie électorale au deuxième semestre de l'année. Elle exige les élections combinées locales, municipales, urbaine et provinciale au suffrage universel et direct. Sauvons la RDC rejette le monde du scrutin indirect. Elle déclare attendre se réaliser la passation de pouvoir entre le président de la République en exercice et le nouveau président élu le 15 décembre 2016. Pour maquiller son désaccord avec la convention et manifester l'unité de l'opposition, le parti de Mboussa Nyamwisi, RCD-KML, qui avait claqué la porte de la convention, rejoint enfin ses partenaires.
Merci Jeff Ngoy. Suivons à présent la réponse du porte-parole du gouvernement concernant ces résolutions de l'opposition. Lambert Mende répondait à la question d'un journaliste ayant trait à la fin du mandat du chef de l'État. C'était lors de sa conférence de presse de jeudi dernier. Ses propos ont été recueillis par Innocent Olinga.
Je ne sais pas s'il appartient à M. X ou Y de l'opposition de légiférer pour donner des gages d'anciens présidents de la République. À ma connaissance, ces gages existent déjà. On sait ce qu'un président de la République, en fin d'exercice, va devenir. La loi prévoit déjà ça. Qui a demandé qu'on puisse légiférer encore? Et pourquoi est-ce qu'ils doivent dire ça? Nous sommes en 2014. Ces messieurs doivent s'habituer à se réveiller encore 2 ans et demi, 3 ans, avec Kabila comme président. D'où il vient maintenant qu'il veut lui offrir des facilités de retraite? Quand est-ce qu'on a dit qu'il va aller en retraite? Il vient à peine de commencer son mandat. Il leur a arraché le mandat parce qu'il voulait aussi être président. Ces gens qui se voient déjà des présidents qui donnent des facilités à ceux qui les ont précédés. Kabila les a vaincus. Et donc ils attendent qu'il termine son mandat. S'ils ont des cadeaux à lui faire, qu'ils attendent eux de devenir président, ils lui feront des cadeaux. Peut-être il acceptera.
Voilà. Honorable Martin Fayoulou, vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement. Vous êtes également co-coordonnateur de la plateforme Sauvons la RDC. Pour commencer, l'opposition a-t-elle réussi son unité à travers cette convention?
Écoutez, l'opposition a réussi quelque chose de formidable. Vous avez vu, dans peu de temps, nous avons sorti des résolutions pertinentes pour l'avenir de notre pays. Et c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons à ce que ces pays deviennent réellement indépendants, que les élections soient des élections libres et crédibles, et que les gens qui sortiront des élections soient ceux qui seront choisis par notre population. J'ai suivi M. Mende. Je ne sais pas comment commentaire si on doit faire pour des résolutions de telles factures, faire une résolution pour M. Kabila. M. Kabila a vaincu qui? M. Kabila n'a jamais vaincu personne dans ce pays. M. Kabila a fait des coups d'État dans ce pays. C'est ce que M. Mende doit dire. Donc, ce que nous disons, il y a la résolution pertinente, la résolution 53, simplement en vue de sauvegarder la paix sociale et la stabilité politique dans notre pays. La constitution du 18 février 2006 ne doit faire l'objet d'aucune révision ou changement. C'est très clair. Donc, nous pensons que nous devons nous attarder dans des résolutions au lieu de provoquer des gens, parce qu'on a déjà suffisamment provoqué les Congolais et nous n'accepterons aucune autre provocation.
Alors, avant d'aborder en profondeur ces résolutions, honorable Fayoulou, qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent qu'au niveau de l'opposition, il y aurait une certaine cacophonie? Il y a certains membres de l'opposition qui ont claqué la porte dès le premier jour.
Écoutez, vraiment, cher ami, il faut arrêter. S'il y a des gens qui veulent se mettre en vedette, notre population n'a pas besoin de ça. Il peut avoir des problèmes dans une organisation ou dans une autre. Sauvons la RDC, c'est un regroupement socio-politique. Nous avons la société civile de la RDC, nous avons la coalition pour le vrai dialogue et nous avons les forces acquises au changement. Donc moi je suis coordonnateur des forces acquises au changement. Au sein de mon organisation, il n'y avait aucun problème de protocole. Mais s'il y a des gens qui ont estimé qu'ils avaient des problèmes de protocole, ça c'est leur problème, il faut leur poser la question. Mais vous avez vu que les délégués du RCD-KML qui ont connu quelques difficultés de protocole le premier jour, et c'est le RCD-KML qui a lu les résolutions de la convention. Donc il n'y a pas de problème.
Alors revenons à l'essentiel. Vous parliez déjà de l'une des résolutions pertinentes concernant la révision constitutionnelle et le mandat du président Kabila. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce que vous redoutez? L'opposition a-t-elle peur? De quoi l'opposition a-t-elle peur? Pourquoi l'opposition ne se prépare pas aux élections de 2016, mais on sent une certaine agitation?
L'opposition, en tout cas, nous nous préparons à toutes les élections.
L'opposition mais a-t-elle déjà un candidat?
Mais écoutez, pourquoi avoir un candidat? Mais ça veut dire quoi? Vous me posez mal le problème. Le problème aujourd'hui...
Peut-être que c'est vous qui répondez aussi mal.
Non, moi je réponds à vos questions. J'ai dit vous posez mal la question. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'une CENI, d'une commission électorale nationale indépendante qui soit réellement indépendante, neutre et qui soit compétente, capable de nous amener dans les élections crédibles. Est-ce qu'on a eu ça? Nous avons besoin d'une commission électorale nationale indépendante qui est un fichier électoral, un registre non corrompu, un registre qui va avoir toutes les personnes, toutes les Congolaises et tous les Congolais qui ont une carte d'électeur, donc doivent se retrouver dans ces registres. C'est ça que nous voulons. Alors, comment vous voulez me poser aujourd'hui la question d'un candidat commun? Non, aujourd'hui, d'abord, commençons par des bases, commençons par la fondation. Vous ne pouvez pas construire une maison et déjà commencer à penser à la toiture ou mettre la toiture. Vous mettez la toiture sur base, sur quoi? Donc, l'opposition à poser des problèmes. Mais nous avons dans ces pays cette manie de vouloir amener les gens là où il ne faut pas. Donc nous disons aujourd'hui, le pays a un problème. Nous avons connu deux élections, 2006-2011. C'était des élections truquées et nous ne pouvons pas continuer. Vous dites pourquoi il y a des agitations? Il n'y a pas d'agitation. Il y a simplement parce que nous savons que le 11 janvier 2011, nous étions tous ici quand les camps kabilistes avaient décidé d'échanger l'article 71 de la Constitution. Nous avons eu vent de ça. Et quand nous avons voulu parler, on a dit que vous vous agitez pour rien. Et aujourd'hui, nous avons eu suffisamment d'éléments qui témoignent que ces gens-là sont prêts à changer la Constitution, à réviser la Constitution. Monsieur Boshab n'a-t-il pas écrit la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation? Monsieur Minakou n'est pas parti sur vos confrères des RFI pour dire que Kabila partira les jours où il y aura élection dans ces pays? Donc, vous comprenez qu'il y a un problème et nous voulons simplement préserver cette Constitution. Nous voulons simplement que ces pays deviennent un jour un pays démocratique.
Alors, très rapidement, avant que je ne donne la parole à Franklin Tchamala, vous réclamez également un dialogue inclusif d'ici le mois de mai.
D'abord, avant le dialogue inclusif, je voulais corriger au point 6. La résolution, donc, c'est élection des députés provinciaux au suffrage universel direct. élection de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs par les assemblées provinciales au premier trimestre 2015. Donc, il n'y a pas d'élection combinée. Donc, dans la copie que vous avez,
voilà, c'est pourquoi j'ai demandé s'il n'y avait pas cacophonie, parce que là, ça fait deux documents que vous nous présentez et qui contiennent votre signature. Comment vous expliquez ça?
Non. Vous savez que dans la dactylographie, on peut avoir une erreur. Je vous dis que c'est une erreur qui s'est glissée.
Une erreur de frappe.
Oui, parce que si vous regardez la résolution numéro 10, donc il faut combiner ça avec la résolution numéro 10 qui est très claire. Qui dit ceci, je vais la lire. Programmer les déroulements des élections de la manière suivante. Élection provinciale, entre parenthèses, élection des députés provinciaux et celle des gouverneurs, et élection sénatoriale au premier trimestre 2015.
Donc, on retient que ce n'est pas élection combinée.
Il n'y a pas d'élection combinée, parce que les locales, pour nous, c'est reporté.
Voilà, je vous redonne la parole tout à l'heure pour d'autres précisions en ce qui concerne les résolutions. Franklin Tchamala, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous avez accueilli l'organisation de cette convention de l'opposition?
Bon, merci beaucoup pour l'invitation, merci. Pour nous, l'exercice de la liberté démocratique, rien que cela. Je ne sais pas quelle autre réaction vous attendez de moi.
Alors, en parlant des résolutions, là, il y a déjà l'une des résolutions parmi les plus importantes, celle qu'a citée l'honorable Fayoulou, est entrée à la révision constitutionnelle au mandat du président Kabila. Comment vous réagissez?
Voyons. Qui a dit que la révision de la Constitution s'agissant de l'article 220 était une préoccupation de la majorité en ce moment? Nous refusons de débattre de ce qui n'a pas lieu. Mais ceci étant dit, nous refusons également que les gens s'arrogent des pouvoirs qui ne sont pas leurs.
C'est-à-dire?
Interdiction de modifier la Constitution. C'est ça le décret de l'opposition, elle, honorable Fayoulou. Mais qui a conféré à cette aile de l'opposition ce pouvoir-là? Qui y a conféré à cette aile de l'opposition ce pouvoir-là? Non. Nous devons être sérieux si nous voulons être pris au sérieux. Bon, dans tous les cas, le point de vue officiel de la majorité, s'agissant des dispositions de la Constitution qui doivent faire l'objet des modifications, le point de vue de la majorité est bien connu. Je vais en arriver si vous voulez. Je voudrais, avant d'aborder cette question, rentrer sur la résolution 1, celle qui recommande le dialogue inclusif.
D'ici le mois de mai.
Bon, je ne sais pas, dialogue inclusif, ce que ça veut dire. Mais le dialogue inclusif, je pense qu'il est aussi bien inter-parti, inter-plateforme, mais il est aussi intra-parti, intra-plateforme. Mais si nous voulons un dialogue sérieux, commençons par un dialogue qui nous permet de nous mettre en phase avec nous-mêmes. Vous avez dans l'opposition des multitudes de facs. Fac Fayoulou, fac Monidela, fac Lisanga Bonganga.
Il semblerait que l'opposition est plurielle.
D'accord. Mais de là, à ne même pas dialoguer tout en étant pluriel, c'est quand même un problème, non? Avant de traverser la rue et d'aller dialoguer avec le voisin, on harmonise d'abord ses points de vue en famille. Et donc nous disons que le dialogue, il est bon. Il est bon dès lors que les familles se présentent dans l'ordre. Nous refusons d'être dans une situation où chacun se présente comme étant l'interlocuteur crédible face à la majorité. C'est chacun à l'opposition qui voudrait être l'interlocuteur crédible face à la majorité. Ce n'est pas sérieux.
Et donc, de votre point de vue, il y a une certaine cacophonie.
Nous disons qu'ils mettent de l'ordre dans leur famille politique ou dans les oppositions. Le reste suivra. Pour le moment, il est connu notoirement que l'autorité morale de la majorité politique et de la majorité présidentielle, c'est un homme ouvert, un homme de dialogue. Il ne se fait pas supplier pour ça. Deuxième chose, lorsque vous lisez cette résolution, elle est sous-tendue par un commentaire. On vous dit, le pays est animé par des institutions, frappées du sceau d'illégitimité. Si je me suis trompé, je voudrais que l'honorable me corrige le moment venu. C'est cela que j'ai lu. Le pays est animé par des institutions frappées du sceau d'illégitimité. Voici pourquoi nous demandons qu'un dialogue soit organisé, etc. Voilà. Mais l'honorable Fayoulou est député national qui siège au sein de l'Assemblée nationale. Et donc qui siège au sein d'une institution frappée du sceau d'illégitimité. Et qui, de ce fait-là, perçoit illégitimement les honoraires sur le compte, en fait, les émoluments sur le compte du trésor. J'aurais bien voulu, pour être pur sérieux, qu'il démissionnât de l'Assemblée nationale et qu'il restituât au trésor public tout ce qu'il a perçu jusqu'ici, pour être plus sérieux.
Franklin Tchamala, ce dialogue inclusif demandé par l'opposition n'aurait-il pas son sens du moment que pour cette aile de l'opposition, ce serait pour pallier notamment à l'échec des concertations nationales, dont la plupart d'ailleurs des résolutions peinent à être appliquées?
Les concertations ont échoué, je ne sais pas, elles ont échoué quand, et quels sont les indicateurs qui vous permettent de constater que ces concertations ont échoué, je ne sais pas, mais les concertations ont produit, vous l'avez dit, des résolutions dont certaines sont déjà en train d'être appliquées. La loi sur l'amnistie, mais elle vient d'être promulguée par le chef de l'État.
Et donc, en un mot, ce dialogue réclamé par l'opposition n'a pas sa raison d'être.
Nous disons que le dialogue républicain, c'est même l'essence de la démocratie. Mais le dialogue doit être ordonné. Si nous voulons que le dialogue soit productif, si nous voulons qu'il soit constructif, il doit être ordonné. Il faut arrêter avec les manies qui consistent pour chacun à s'autoproclamer roi télé et à se présenter en face de la majorité comme étant l'interlocuteur, le vrai et le grand, celui qui vaut. Non. Non. Notre peuple a un avis de toutes les couleurs. Maintenant, il est venu le moment de dire à notre peuple ce que nous sommes et quel cahier des charges nous sommes porteurs.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique, vous avez suivi l'honorable Fayoulou ainsi que Franklin Tchamala. À ce niveau, quelle est votre réaction?
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais dire ici que la tenue de cette convention est une preuve qu'il y a une respiration démocratique dans notre pays. C'est que quand il y a un débat, un sujet qui est lancé dans le débat, au moins des franges de la population peuvent se réunir, débattre et participer, n'est-ce pas, à ce débat national. Je crois que c'est une forme de respiration de la démocratie, mais à condition que les porteurs du pouvoir en place puissent exercer ce que j'appelle l'écoute démocratique. C'est-à-dire quand il y a une partie de la population qui s'est réunie pour débattre d'un sujet de l'heure, je crois qu'ils doivent bénéficier d'une certaine écoute démocratique de la part des porteurs du pouvoir. Et justement, c'est ce que nous attendons de la part de ce pouvoir, quelle est la réaction objective et réfléchie, n'est-ce pas, par rapport à cette demande politique.
Vous avez suivi notamment la réaction du ministre Mende.
Ce n'est pas encore ça la réaction. Je connais, quand vous parlez du ministre Mende, j'attends la réaction du gouvernement. Ça, c'est la réaction de l'individu. Deuxièmement, quand il y a un malaise, un danger qui menace la République, parce que de la manière que la majorité a présenté le problème par le biais de M. Bachala, je crois, c'est lui, je crois que c'est un danger et un malaise profond qui menace la République. Voyez-vous? Et de cette manière, c'est normal que cette convention ait lieu pour une réponse complète, n'est-ce pas, et efficace, n'est-ce pas, à cette menace, à ce danger qui menace la République. Pourquoi? Parce que à travers, n'est-ce pas, ce projet, il y a ce que j'appelle les éléments porteurs du déclin à l'intérieur de ce projet, tel qu'il a été présenté peut-être de manière disparate par M. Bachala et de la manière que M. Bende l'a dit, de la manière que le président de l'Assemblée nationale, nous sentons qu'il y a une manière un peu disparate, cavalière, de présenter un projet politique. Voyez-vous? Alors, nous disons que c'est un danger. C'est un danger, tout cela, ce sont des éléments porteurs du déclin. Et vous savez dans quelle situation notre population vit aujourd'hui. Si on doit sacrifier les maigres acquis de la démocratie au profit de l'égoïsme, n'est-ce pas, d'un bloc hégémonique au pouvoir, je pense que c'est un danger profond qui risque, n'est-ce pas, de briser, de casser pratiquement les bases qui sont fragiles, n'est-ce pas, de notre démocratie aujourd'hui. Alors, Je disais que ce sont ces bases, ce sont ces éléments de déclin, qui, aujourd'hui, nous réclamons l'intervention, n'est-ce pas, de la communauté internationale, l'intervention des puissances étrangères. Ce sont ces éléments-là qui agrandissent cette possibilité d'intervention. C'est comme ça qu'on va, bien se poser le problème à la communauté internationale et s'y discuter tout ça. Voilà comment nous créons nous-mêmes les propres manières, n'est-ce pas, des situations qui font que la communauté internationale s'ingère dans la construction des politiques à l'interne. Donc, c'est un danger, c'est normal que cette coalition ait lieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement.
Alors, Joseph Kongolo, à ce niveau-là, vous avez toujours la parole. Entrons maintenant dans le fond. Oui. En ce qui concerne la première résolution, est entrée au dialogue inclusif. Franklin Tchamala était en train de s'étonner pourquoi un dialogue. Ne faudrait-il pas que l'opposition commence par dialoguer elle-même en son sein d'abord?
Non. Dans un débat politique, je ne pense pas qu'il y ait un besoin aujourd'hui d'unifier les idéologies, les orientations, les stratégies. Voyez-vous, un dialogue politique reste, comme je l'ai dit au début, une respiration démocratique. Des gens viennent avec des propositions claires, voyez-vous, des propositions claires pour débattre d'un sujet donné. Il ne faut pas qu'il y ait un dialogue entre deux blocs. Nous sommes dans un régime multipartiste. Ce n'est pas un régime bipolaire, là où il y a deux partis politiques ou deux plateformes politiques. Cette multiplicité des plateformes justifie en principe une variété d'orientations, d'idéologies, ainsi de suite. Et c'est dans ce débat inclusif, s'il y en a lieu, et je crois que c'est une nécessité aujourd'hui, je crois que chaque plateforme viendra avec ses idées, avec sa stratégie, avec sa vision de la chose pour trouver solution à la situation. Je ne vois pas ici qu'il y ait absolument une nécessité d'unifier l'opposition, d'unifier la majorité pour mettre face à face l'opposition à la majorité.
Mais peut-être que du point de vue de l'opposition, on a souvent entendu parler d'un vrai dialogue, réclamer un vrai dialogue. De votre point de vue, quelle forme prendrait ce dialogue ?
Je voudrais dire ici, ça m'engage moi-même, que les concertations nationales sont passées à côté de la vérité. Pour une raison majeure, la première, c'est que la forme, le calibre et les objectifs poursuivis dans le texte fondateur de ce dialogue, c'est la résolution 2098 et les accords, n'est-ce pas, d'Addis Abeba. Et quand nous lisons froidement, n'est-ce pas, sans état d'âme, nous voyons effectivement que les concertations n'ont pas atteint l'objectif ou encore sont passées à côté. C'est pas ça la philosophie, l'esprit et la lettre, n'est-ce pas, de ce dialogue reclamé. Voyez-vous, c'est pourquoi je me dis aujourd'hui, 6 mois, 7 mois plus tard, après ces dialogues, après ces concertations, nous constatons qu'effectivement, qu'il n'y a pas des attentes, n'est-ce pas, qu'on devait avoir, n'est-ce pas, après ce dialogue-là. C'est pourquoi je dis ici qu'il y a encore un besoin d'un dialogue inclusif. Je ne vois pas pourquoi ni la majorité ni l'opposition, on peut craindre le dialogue. Le dialogue, c'est le fondement de la démocratie. On peut tous les jours dialoguer. Il n'y a pas un mal en cela. Voyez-vous, c'est pourquoi je réclame, je dis que le dialogue inclusif aujourd'hui reste une priorité et reste toujours actuel.
Alors, la troisième résolution a trait à la requalification du bureau de la CENI. Et on sait que ces derniers temps, notamment avec l'honorable Fayoulou, qui a une pétition où il faut faire tomber, changer l'abbé Malumalu, vous pensez que c'est opportun?
Je dis que les fondamentaux ne sont pas consensuels. On ne peut pas aller aux élections avec une dispersion d'opinions, n'est-ce pas? Et cette contradiction risque de nous amener encore aux élections chaotiques comme c'est fut le cas en 2011. Il y a lieu, c'est pourquoi le dialogue reste une actualité. Il y a lieu de se mettre encore ensemble pour aplanir les divergences, créer des espaces de discussion pour aplanir des divergences. Et ce dialogue peut être le bienvenu. Ce dialogue sera le bienvenu. Deuxièmement, il y a un manque de confiance entre différents acteurs. Et on ne peut pas partir aux élections sur un fondement qui est disparate. En ce moment-là, nous risquons d'arriver aussi aux élections chaotiques. Je termine
pour vous en prie, que très rapidement.
Ça lie deux. Donc, les fondamentaux qui ne sont pas consensuels et le manque de confiance risquent bien d'amener, d'obscurcir les horizons pour les nouvelles échéances.
Honorable Fayoulou, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Placide Mutombo de Lubumbashi dans la province du Katanga. L'organisation d'un premier dialogue inclusif proposé par la plateforme Sauvons la RDC est une perte d'énergie et d'argent pour un Congo qui a besoin de cet argent pour son développement. La révision de la loi électorale est encouragée. Elle va dans le sens à rendre encore plus transparentes les prochaines élections électorales qui doivent être précédées au préalable par l'élaboration de la cartologie électorale. Dès lors qu'il y a le représentant de la société civile, l'opposition et de la majorité présidentielle au sein du bureau de la CENI, une requalification de ces bureaux ne se justifie pas.
Réaction honorable Fayoulou.
Mais écoutez, les dialogues, c'est partout dans le monde, il faut le dialogue. Alors, qui est les représentants de la société civile à la CENI? Monsieur Malumalu, nous disons non. Monsieur Malumalu, c'est un conseiller de Monsieur Kabila. Donc, nous disons que le dialogue est nécessaire. Et comme l'a déjà dit la résolution 2098, il faut appliquer cette résolution. Mais je vais revenir beaucoup plus sur ce que Monsieur Tchamala a dit, qu'interdiction de modifier la Constitution. Qui a conféré à l'opposition ces pouvoirs?
Honorable, je m'excuse, vous avez toujours la parole. Juste une précision. Oui. Dans la réaction que nous venons de suivre de Placide Mutombo, il insiste quand même sur un élément important. Oui. Il dit, dès lors qu'il y a les représentants de la société civile, de l'opposition et de la majorité présidentielle au sein du bureau de la CENI, une requalification de ce bureau ne se justifie pas. Non, mais il y a quand même des représentants de l'opposition.
Vous n'avez répondu
qu'au sujet de Malumalu.
Les représentants de l'opposition qui sont là,
pourquoi ils ne démissionnent pas?
Le savez, ils vont quitter. Ils vont quitter. Quand on a voulu faire partie Yanukovych, on a demandé à tous les gouvernements. Quand on a voulu faire partie Ben Ali, on a demandé à tous les gouvernements. Donc, quand Malumalu partira, ces gens-là vont tomber. Donc, moi, je n'ai aucun représentant là-bas. Et je vous dis que non. Qui a conféré à l'opposition ce pouvoir? Mais vous avez déjà vu que le match a commencé. Quand le match commence et l'arbitre vient, il vous dit qu'on change les règles du jeu. Mais pourquoi vous voulez modifier la Constitution? Pourquoi vous voulez changer la Constitution pendant que nous sommes dans un cycle électoral? Le cycle qui a commencé le 28 novembre 2011. Vous allez changer ça pourquoi? Et vous allez les dans des pays civilisés. Mais on ne change pas, on ne modifie pas la Constitution pour permettre à quelqu'un d'accéder au pouvoir. On modifie la Constitution, on révise la Constitution quand il y a des fondamentaux, quand la sociologie du pays a changé, quand, dans la communauté ou les communautés dont vous faites partie, il y a des éléments qui changent et vous allez vous adapter comme le pays européen se sont adaptés à l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison scientifique et il n'y a aucune raison politique pour changer ou modifier la Constitution.
Deux auditeurs pour vous, honorable Fayoulou, Kabayou de Manono Katanga. Tenir des forums et y arrêter des résolutions en est une chose et faire appliquer ces résolutions en est une autre. Je me demande par quelle voie, en dehors de l'Assemblée nationale, l'opposition pourra faire appliquer les résolutions qui sont issues du forum qu'elle a organisé. N'est-ce pas là des forums stériles? Il y a Tibalon Zaloukou, la Doualung au Sud-Kivu qui vous demande pourquoi et comment l'opposition pourra sauver le Congo. Le plus important, c'est la cohésion nationale et non le partage du gâteau. Christian Siebois de Diagoya de Kinshasa. La MPA a intérêt à prendre en considération les propositions de l'opposition, mais de son côté, l'opposition ne doit pas aussi être trop exigeante, car la population a besoin de la paix, honorable Fayoulou.
Mais tout à fait, il a totalement raison. La population a besoin de la paix, c'est ce que nous faisons. Il n'y a pas de partage des gâteaux. Nous voulons sauver notre pays. L'Assemblée nationale n'a strictement rien à voir. Monsieur Tchamala a dit que j'ai fait partie de cette Assemblée. Oui, j'ai fait partie de cette Assemblée. Oui, cette Assemblée est illégitime. Pourquoi? Parce que il y a des députés qui n'ont jamais été élus par le souverain primaire. Je le sais, je l'ai dit. Donc, je suis là et je défends une cause. Donc, nous ne sommes pas là pour partager les gâteaux. Nous avons besoin d'un dialogue parce que, évidemment, on n'a pas le monopole de la vérité. Nous allons confronter, nous devons confronter nos idées, nos résolutions avec celles des autres pour arriver à, à une décision commune pour faire avancer le pays. Mais si des gens pensent que, parce qu'ils ont un monsieur qui pense qu'il doit rester éternellement au pouvoir, même s'il a atteint son niveau d'incompétence, regardez le pays. Regardez ce pays là où nous sommes.
N'est-ce pas des mots trop forts à l'endroit d'un chef d'État?
Non, Non. Tout homme atteint son niveau de compétence. Vous savez ce que ça veut dire, atteindre son niveau de compétence?
Selon vous, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'après avoir été dans une fonction pendant un temps excessivement long, on atteint son niveau de compétence.
Vous voulez parler de l'usure du pouvoir.
Exactement. C'est pour cela, aux États-Unis, par exemple, le mandat de 4 ans renouvelable une fois. En France, le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Parce qu'il y a cette notion d'atteinte des niveaux de compétence. Ce n'est pas une injure.
Franklin Tshamala, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Cet applicatement depuis Kinshasa dans la commune de Njibo. Je salue le travail de l'opposition, car elle a pour rôle non seulement de critiquer, mais aussi de proposer. Et la majorité doit prendre cela en compte, surtout les points relatifs au mode de scrutin des élections provinciales, parce que la majorité ne veut pas dire l'arrogance et l'opposition l'insolence. Par ailleurs, si l'opposition veut conquérir le pouvoir pour le bien-être de la population congolaise, elle doit s'unir et s'organiser en se servant de l'exemple de l'opposition sénégalaise. Car conquérir le pouvoir dans la division, c'est vouloir une chose et son contraire.
Franklin Tshamala, j'insiste sur l'aspect où il dit la majorité doit prendre cela en compte, surtout le point relatif au mode de scrutin des élections provinciales, parce que la majorité ne veut pas dire l'arrogance et l'opposition l'insolence. Et Joseph Kongolo, en d'autres termes, a appelé ça l'écoute démocratique, mais visiblement, ça semble faire défaut du côté de la majorité.
Pas du tout. Je ne sais pas. L'écoute n'est pas à sens unique. L'écoute est interpersonnelle. Autant nous écoutons l'opposition, autant l'opposition ne doit pas faire la sourde oreille lorsque nous, qui sommes comptables de l'état de la nation et qui sommes au contact des pesanteurs de la gouvernance à tous les niveaux, y compris au niveau local, nous qui sommes au contact des goulots d'étranglement que pose l'exercice de l'autorité de l'État au niveau local, lorsque nous disons il y a nécessité de retoucher à ceci ou à cela. Dans tous les cas, l'honorable Fayoulou vient de reconnaître que il n'y a aucune disposition de la Constitution ou d'une loi de la République qui confère à l'opposition le pouvoir d'interdire la modification de la Constitution. Parce que la Constitution elle-même, elle organise les conditions dans lesquelles elle peut être modifiée. Deuxième chose, l'honorable Fayoulou reconnaît la difficulté qu'il y a à l'opposition à pouvoir se supporter. Il vous dit, au bureau de la CENI, il y a des gens au travers desquels je ne me reconnais pas. Et dans tous les cas, ces gens quitteront quand Maluma le quittera. Non, il aurait fallu, pour des raisons de moralité, qu'il donne l'exemple en disant « Nos membres quittent déjà parce que nous ne croyons pas en ce bureau-là. » Mais maintenant, l'opposition a des membres. Si vous vous reconnaissez comme étant de l'opposition, vous devez vous identifier à ceux qui sont là. Autrement, cette unité de l'opposition dont vous donnez l'impression là, c'est quelle unité ? Bien que l'on me dise que cette unité n'a pas lieu d'être en ce moment. Mais elle est quand même tout de même importante quand on veut dialoguer avec l'autre famille politique. Alors, on me dit, l'opposition, la majorité doit être à l'écoute de l'opposition s'agissant des élections, du mode de désignation des députés provinciaux. Nous disons oui, mais nous sommes au fait des pesanteurs. Regardez nos assemblées provinciales. Regardez la productivité de ces assemblées-là. Elle est nulle. Mais comparer
la
productivité
dirigée par des gens de la majorité.
Mais pour la plupart animée aussi par des députés de l'opposition, parce que l'initiative de l'édit est de la compétence concurrente du député et des membres du gouvernement provincial. Dites-moi, dans combien d'assemblées vous avez appris que les membres de l'opposition ont initié des édits qui peuvent concourir au développement des provinces. Je dis, il y a un problème réel. Mais regardez le Sénat où les élus l'ont été au second degré. Productivité exemplaire. Et donc, nous disons ceci.
Le problème, il est à quel niveau? Au niveau de compétences ou au niveau du temps et des moyens, comme vous l'avez dit, au niveau
tout.
De la majorité?
Le problème, c'est un tout. Nous disons ceci, que les élections, elles doivent être crédibles, transparentes, mais productives. Parce que notre pays n'a pas besoin d'avoir dans les assemblées délibérantes n'importe qui. Notre pays a besoin d'avoir dans cette assemblée-là des hommes et des citoyens productifs. Des citoyens productifs, des citoyens qui sont payés pour produire, pour travailler, pas des citoyens qui sont payés pour aller dormir. Voici pourquoi nous disons qu'il est venu le moment de mettre sur la table les modes de désignation de ces hommes et des femmes qui siègent dans nos assemblées délibérantes et surtout aux assemblées provinciales. Nous disons qu'il faut en débattre. Nous ne voulons pas des élections pour les élections. C'est ça le point de vue de l'AMP. Nous ne voulons pas des élections pour les, surtout pas des élections qui perpétuent ce que nous avons connu. Au nom de quoi? devons-nous continuer à prendre l'impôt que moi je paye et que Fayoulou paye pour payer des improductifs? Nous voulons quel État? Nous voulons quelle nation? Une nation qui avance ou qui recule?
Ça a quand même pris beaucoup de temps pour que vous vous rendiez compte qu'ils étaient improductifs.
Mais non, il n'est jamais tard pour corriger. Nous refusons de rentrer dans leur chemin consistant à dire « gardons les choses en l'état ». Je sais que nos partis politiques sont essoufflés. Nos partis politiques ne sont plus des cadres attractifs pour l'élite. Le problème est là, nous le savons. Mais le pays ne doit pas être pris en otage parce que nos partis politiques ont cessé d'être attractifs pour l'élite. Nous avons besoin d'intelligence dans nos assemblées délibérantes. Faisons en sorte que ces intelligences y siègent. Merci, pas Franck des élections Tchamala. Pour les élections.
Merci Franklin Tchamala. Joseph Kongolo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Mbanzangungu au Bas-Congo.
C'est l'inzita depuis Mbanzangungu dans le Bas-Congo. Nous pensons que l'opposition doit savoir que le pouvoir, elle ne peut pas l'avoir sur un plateau. Donc, il faut que l'opposition sache qu'il faut tout un combat pour gagner le pouvoir. Et la population est déjà bien éduquée et déjà mature. Au contraire, cette opposition devait arranger pour sensibiliser, pour éduquer la population, il doit comprendre les enjeux de l'heure. Et comme ils sont en train de faire des déclarations en disparate, en groupuscule, cela ne leur donne pas l'occasion de pouvoir récupérer le pouvoir. Voilà pourquoi nous pensons que l'opposition, qui peut avoir les atouts, doit ressourcer, doit se rabattre au niveau de la population.
Réaction Joseph Kongolo, l'impression c'est que le débat se passe au niveau de l'élite et la population qui est concernée ne se retrouve pas.
Tout à fait. Je crois que j'ai essayé de réfléchir profondément là-dessus. C'est autour de la capacité de la contrainte démocratique de l'opposition. Il faut que l'opposition puisse avoir des capacités de mobilisation des masses, n'est-ce pas, par des actions efficaces, une sensibilisation efficace sur l'ensemble du pays. Je crois que ça, c'est un défi qu'on lance à cette opposition, à selon le Congo, qui vient, n'est-ce pas, de donner une kyrielle de résolution. Je pense que c'est cette capacité-là d'une contrainte démocratique. Comment amener la population à se mobiliser autour, n'est-ce pas, de ces résolutions de manière à infléchir la décision politique? Ça, c'est la première chose. Je crois que Léon Zita a posé un problème capital, surtout un problème de survie, n'est-ce pas, d'une plateforme politique ou d'un parti politique. Deuxièmement, il y a la capacité de maintenir la flamme de résistance à toutes ces révisions constitutionnelles, en particulier l'article 220, qui est pratiquement le symbole, n'est-ce pas, du contrat social. Voyez-vous? Donc, il faut cette capacité de maintenir la flamme de résistance contre la révision, n'est-ce pas, en particulier de l'article 220. J'ai dit bien, c'est le symbole, n'est-ce pas, qui couvre pratiquement l'ensemble de tout ce contrat social. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut construire des stratégies communicationnelles, n'est-ce pas? Arriver tout ça efficace auprès des partenaires aussi pour monter des stratégies de lutte, des synergies de lutte. Voilà comment l'opposition doit arriver à monter un ensemble de stratégies de manière à maintenir la flamme de résistance contre la révision constitutionnelle et pour l'exécution, surtout mobiliser la population de manière à ce que qu'ils ne travaillent pas au sommet, mais encore à la base. Donc ça, c'est le défi qu'ils ont, c'est sur ça que nous serons un peu vigilants pour voir de quelle manière l'opposition va s'y prendre. Ça, c'est la première chose. La deuxièmement, je voudrais rapidement revenir sur ce que les autres ont dit tout à l'heure.
Il reste au moins de 7 minutes pour terminer l'émission.
Ouais, j'ai dit ceci pour les élections provinciales au second degré. Nous avons une démocratie balbutiante, naissante et fragile. Il n'est pas opportun aujourd'hui, à la suite d'une culture politique paroissiale, n'est-ce pas, de passer moins de 2 mandats après, passer des élections, n'est-ce pas, universelles directes à l'universel indirect. Je pense que là, on va fragiliser les bases d'une démocratie et que petit à petit, on est en train d'écarter le souverain primaire, n'est-ce pas, de son droit le droit politique le plus légitime, petit à petit. Parce que ça va commencer par les députés provinciaux, ça va aller à la présidence de la République, et vous voyez la cassure qu'il y aura entre la base et le sommet. Je crois qu'il y a un danger, c'est pas le moment opportun, il faudra encore investir davantage dans la capacitation des masses, n'est-ce pas, à supporter bien des divergences et autre chose, la culture politique de participation. Deuxièmement, l'improductivité des assemblées provinciales n'est pas l'œuvre de l'opposition. Je crois qu'il y a des programmes de renforcement des capacités des élus. Et tout cet argent que la communauté internationale, le pouvoir en place, c'est ça le travail du pouvoir en place. Si ces assemblées provinciales ne sont pas productives, je crois que ça c'est sur le dos du gouvernement et sur le dos de multiples programmes qui ont été initiés pour la capacitation de toutes ces institutions et qui n'ont pas atteint leur objectif. Je crois que ça c'est pas une raison
Merci.
Pour changer, n'est-ce pas, de élections universelles directes ou universelles indirectes. C'est pas une
Merci
raison valable.
Congo.
Ok, merci.
Honorable Fayoulou, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission.
Oui.
Gabriel Kizaba de Kinshasa dit « Je n'ai peur que de la résolution qui exige la réqualification du bureau de la CENI. En effet, ils sont conscients du temps mis pour simplement désigner ses membres. N'est-ce pas une erreur de vouloir faire un pas en arrière à un endroit glissant comme si on voulait marcher sur place au lieu d'avancer ?» Très brièvement.
Non, écoutez, il faut du sérieux. Malou n'est pas qualifié et Malou doit partir. Donc là, il ne faut pas transiger. Il faut quelqu'un de neutre et de compétent à la CENI. Mais je reviens quand M. Tchamala parle de la révision ou du changement de la Constitution. Nous comprenons que nos amis, finalement, ont décidé de faire un passage en force. Mais vous parlez de l'improductivité des assemblées provinciales et l'Assemblée nationale. Là où on a nommé des gens. Est-ce que c'est efficace l'Assemblée nationale? Il y a un contrôle de l'Assemblée nationale? Et ça se passe normalement? Non. Vous allez prendre le même, vous allez payer demain pour élire ou mettre des gens dans les assemblées provinciales. Ça sera exactement comme l'Assemblée nationale aujourd'hui. Rien aujourd'hui au Congo n'est efficace. Donc nous avons besoin de la démocratie. Je vais terminer par l'opposition. Mais l'opposition est multiple. Mais dans cette opposition où vous venez acheter des esprits faibles, parce que vous avez paupérisé tout le monde, et vous le laissez comme ça, vous dites « venez ». Aux concertations, parce qu'à la fin des concertations, il y aura un gouvernement d'union nationale
alors,
et les gens en cours.
Alors,
vous pensez que c'est sérieux, ça?
Honorable Fayoulou, en guise de conclusion, il y a Léon de Mbanzangungu que nous avons suivi, qui vous reprochait à vous, l'élite, de débattre à votre niveau, mais de ne pas tenir compte de la population.
Conclusion. On tient compte de la population, parce qu'on va vers la population. Je ne vais pas vous dire, j'étais hier, donc j'ai été avec la population, je le fais tout le temps, demain je serai encore dans la base,
Merci.
Avec la population. On tient compte de la population, c'est que nous
Merci.
Disons ici, quand nous faisons signer la population, vous entendez ce que la population dit.
Merci. Franklin Tchamala, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces résolutions?
On ne change pas les règles de jeu pendant la compétition, dixit l'honorable Fayoulou, excusez-moi. Mais ça, c'est quelle disposition de la Constitution pour qu'on s'y réfère? J'entends cette chanson revenir, j'ai dit, il faut qu'on dise au peuple, c'est quelle disposition de la Constitution? Non, on distrait le peuple. On distrait le peuple. Ça n'a rien à voir. Deuxième chose, on me dit, le souverain primaire est écarté du jeu dès l'instant où on institue l'élection, en fait la désignation des députés par le suffrage universel indirect.
J'ai donné des considérations, j'ai argumenté.
Joseph Kongolo, allez-y.
J'ai la parole.
Allez-y, oui. C'est vous qui l'avez.
Attention, la Constitution, elle dit que le souverain primaire exerce son pouvoir directement en désignant lui-même ses représentants, ou indirectement par le truchement de ses représentants. C'est cela l'essence de la Constitution. Alors, n'étordons pas la Constitution par des réflexions philosophiques qui n'en sont pas une.
Merci.
Troisième chose.
Très rapidement, Franklin Tchamala, il faut terminer. Allez-y, très rapidement.
Oui, alors,
terminez par là.
Je dis, nous, à la majorité présidentielle, nous sommes clairs dans les projets dont nous sommes porteurs. Nous disons que la désignation des députés provinciaux fera l'objet des débats à l'Assemblée
Merci.
Nationale et au Sénat.
Merci.
Si le consensus n'est pas trouvé à ce niveau-là, nous organiserons une consultation référendaire.
Merci.
C'est clair.
Joseph Kongolo, pardon, conclusion.
Je crois que le constituant, c'est pas pour rien que le constituant a prévu les élections universelles directes. C'est pas pour rien. Et ce n'est pas aussi pour rien que la majorité aujourd'hui propose donc l'universel indirect. C'est pas encore pour rien. Je crois qu'il y a derrière des agendas cachés. Mais je voudrais dire ceci pour terminer, que le respect de loi, c'est la marque de la grandeur de l'homme. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune opportunité, il n'y a aucune raison qui justifie la révision constitutionnelle. Je crois que, allons-y, la grandeur nous attend au bout de la rue.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.